Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a eu la chance d'interviewer le CEO et le fondateur de Cashflow Positif, donc une société d'investissement clé en main spécialisée dans l'investissement à haut rendement. On a pu à la fois échanger avec lui sur son service, mais aussi sur sa vie en tant qu'entrepreneur et aussi en tant qu'investisseur, puisqu'il a investi dans plus de 100 biens à titre personnel. Donc, on va pouvoir discuter de sa vision du marché, comprendre si oui ou non il y a encore des opportunités aujourd'hui, l'impact notamment aussi de l'intelligence artificielle sur l'investissement immobilier. Donc je vous laisse découvrir tout ça et je vous retrouve en fin de vidéo.
Bonjour Erwan,
Bonjour.
merci beaucoup de nous accueillir dans tes bureaux parisiens de Cashflow Positif. On est super content de te voir et de pouvoir te poser tes questions sur l'immobilier, mais aussi sur ton entreprise. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que ce serait possible d'en savoir plus un peu sur toi, sur ton parcours et aussi sur Cashflow Positif?
Ouais, moi j'ai un parcours assez classique, ingénieur, commerce. J'ai fait un peu de finance, un peu de conseil en stratégie et j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Palantir, une grosse boîte de tech américaine plutôt spécialisée dans le big data. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'ai aujourd'hui réalisé un peu plus d'une centaine d'acquisitions, donc une centaine d'appartements. Et finalement, au bout de 2-3 ans à commencer à investir, c'est le moment où j'ai finalement créé Cashflow Positif. Donc c'était en 2020, plein Covid. Voilà, donc on a tous commencé en télétravail avant de pouvoir avoir la chance de travailler dans ces locaux.
Pourquoi t'as décidé de créer Cashflow Positif et en quoi en fait tu différencies un peu de tes concurrents?
En fait, Cashflow Positif, c'est, je pense, il y a deux choses principalement qui vont nous différencier. D'abord, c'est un parti pris très fort pour une stratégie d'acquisition particulière qui est le Cashflow Positif. Donc en fait, l'acquisition de biens à haut rendement locatif dans l'objectif d'autofinancer des projets et de pouvoir finalement décupler le nombre de projets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment nous différencier. Et la deuxième chose, c'est lié bien sûr au premier aspect, mais c'est la technologie. En fait, on a développé un certain nombre d'algorithmes capturant un certain nombre de données qui permettent en fait l'aide à la décision et notamment d'investir dans des zones dans lesquelles il est beaucoup plus difficile d'investir. Je pense par exemple à des petites villes ou même des villages parfois de province où sans données qualitatives sur le marché locatif, ça va être parfois extrêmement risqué de se positionner. Donc c'est vraiment ça qui va nous différencier. L'aspect donc stratégie d'investissement très opinionated et technologie data pour supporter l'aide à la prise de décision.
Là, on va passer à la deuxième partie de l'interview. En fait, nous, on aime bien poser une partie où en fait, tu peux répondre que par vrai ou par faux à des questions qui peuvent être un peu touchy, mais c'est aussi le but. Donc, la première question, c'est est-ce que pour toi, c'est un bon moment pour investir dans l'immobilier?
Vrai.
Faire un investissement locatif est plus intéressant que d'acheter sa résidence principale.
Vrai.
Est-ce que l'investissement clé en main est sans risque?
Oh, faux.
La recherche de biens est la partie la plus importante d'un investissement immobilier locatif.
Vrai.
Est-ce que selon toi, l'investissement clé en main ne sert qu'aux débutants?
Faux.
Les formations immobilières sur Internet sont toutes des arnaques.
Vrai, faux.
Toutes, non, faux, 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 pas toutes. Est-ce que Cashflow Positif est la meilleure solution d'investissement clé en main?
Vrai, vrai.
Mastéos et Beanstock font du très bon travail.
Faux.
Est-ce que beaucoup d'entreprises du secteur vont couler avec ces conditions de marché?
Malheureusement, vrai.
Parce qu'on tourne la vidéo en octobre 2023.
Ouais.
La crise de l'immobilier est une bonne chose pour le secteur sur le long terme.
Vrai.
Est-ce que les passoires énergétiques sont une très grosse opportunité?
Ouais, vrai.
Les immeubles de rapport sont le meilleur moyen de s'enrichir rapidement
Ouais,
avec l'immobilier.
vrai. Yes.
Ok, super. Bah, merci pour ta franchise,
Bravo.
c'est super cool. Là, on va passer à la troisième partie en fait de l'interview où en fait là, on va vraiment se focus sur le service du clé en main, pas forcément de Cashflow Positif, mais vraiment dans son entièreté. Et la première question, elle est assez simple, c'est selon toi, comment tu définirais l'investissement clé en main pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que veut dire en fait clé en main?
Oui, alors c'est vrai que j'allais dire assez nouveau, mais quelque part en plein développement. Donc c'est dans l'immobilier locatif clé en main. Alors qu'est-ce qui va différencier vraiment le clé en main? C'est l'idée de je viens avec un projet, éventuellement un budget, même pas. Parfois on a même des clients qui vont nous dire je veux juste investir, dites-moi combien est-ce que je peux emprunter, quel doit être le budget du projet, et se faire accompagner sur l'ensemble du processus par des professionnels, par des experts. Voilà, donc après il y a différents niveaux d'expertise, il y a différentes approches. Nous on va accompagner par exemple sur la recherche, sur le financement, sur même la fiscalité. Voilà, on peut rentrer dans des sujets plus ou moins techniques, et en tout cas voilà, clé en main, l'idée c'est vraiment de se reposer sur un acteur tiers pour réaliser un investissement.
Okay.
Et pour toi, c'est intéressant justement, tu parlais des risques d'investir dans les petits villages ou enfin dans des petites agglomérations en tout cas. C'est quoi pour toi les risques principaux d'investir avec du clé en main ? À la fois, quels est les risques d'investir avec une société clé en main et le risque d'investir dans l'immobilier ?
Ouais. Alors déjà, je pense qu'il y a moins de risques d'investir via une société clé en main que soi-même, surtout quand on est primo investisseurs, parce que c'est quand même un garde-fou. J'allais dire, quel que soit, on parlait tout à l'heure rapidement des concurrents, mais voilà, sans vouloir, on a en tout cas des sociétés qui sont là pour limiter le risque, en tout cas. Donc je pense que on va mitiger ce risque. En revanche, il y a toujours des risques. Ah, ça, c'est vraiment essentiel. Moi, je dis qu'il y a souvent trois types de risques. Il y a le risque locatif, donc c'est les impayés, les locataires qui partent sans prévenir, etc., qui peuvent dégrader les logements. Heureusement, on peut mitiger ce risque. Il y a des garanties comme les GLI, par exemple. Il y a le dispositif Visale, donc c'est l'État qui subventionne une grosse partie des impayés. Il y a plein d'autres mécanismes qui existent aujourd'hui. Il faut savoir les utiliser. Alors là, c'est là aussi, finalement, le conseil d'un expert peut être utile, que ce soit dans la partie transactionnelle ou même en gestion locative. Donc ça, c'est le premier type de risque. Deuxième type de risque, ça va être le risque lié à la vacance ou tension locative. C'est de se dire, j'ai fait un investissement qui, sur le papier, doit me rapporter X euros, doit être loué à tant de taux d'occupation, et finalement se rendre compte que la tension locative, elle n'est pas tout à fait au rendez-vous, ou que les hypothèses de loyer qui ont été formulées, finalement, sont un peu optimistes par rapport à la réalité. Donc ça, c'est le deuxième type de risque. Là aussi, il y a des assurances pour ça. Ça, c'est assez récent. Assurance qu'on appelle garantie occupation et qui permet de se prémunir du risque de vacances locatives. Et enfin, troisième type de risque, c'est tout ce qui est lié aux travaux. En fait, c'est de se dire, par exemple, j'ai fait une visite et j'ai pas vu que la toiture était en très mauvais état. Et ça peut coûter très cher. Donc ce type de risque-là, ça demande quand même une bonne expertise dans le bâtiment. Nous, on recommande toujours, lorsqu'on accompagne nos clients, on le fait pour nos clients, mais si vous investissez en direct, faites toujours attention à ces éléments. Faites-vous accompagner d'entrepreneurs avec des devis, voire même architectes, bureaux d'études quand c'est nécessaire.
On a bien compris qu'un des avantages de l'investissement clé en main, et notamment avec les classes locatives, c'est le conseil et l'expertise que tes conseillers ont pu avoir au fil du temps. Est-ce que tu as d'autres avantages de l'investissement clé en main qui te viennent en tête, si tu devais par exemple en nommer vraiment trois avantages forts pour investir dans le clé en main pour tout investisseur qui souhaite mettre de l'argent dans l'immobilier?
Effectivement. Alors, s'il devait y avoir trois avantages, d'abord, ça va être le gain de temps. Gain de temps d'argent, on a fait aujourd'hui près de 1000 appartements en termes de nombre de projets. Donc aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire plus rapidement, plus facilement que lorsqu'on le fait pour la première fois. Donc je pense que voilà, c'est un gain assez intéressant. Il y a le fait d'avoir un interlocuteur qui peut être un peu plus disponible et qui comprendra mieux l'investissement que si vous allez voir, par exemple, un agent immobilier local qui va vous parler d'immobilier, mais un peu moins d'investissement, d'aspects financiers. Et enfin, je dirais qu'il y a bien sûr l'accès à des opportunités qui sont très difficiles d'accès lorsqu'on a un particulier qu'on va chercher sur le bon coin, par exemple. Ça peut être soit parce qu'il y a des réseaux off-market qui ont été développés par des acteurs d'accompagnement locatif clé en main, ou bien ça peut être, nous par exemple, on a une technologie qui nous permet de vraiment scorer toutes les annonces, vraiment repérer les meilleures opportunités, etc. Et ça, lorsqu'on est tout seul face à un écran sur le bon coin, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc ça, je pense que voilà, les trois grands types d'avantages du clé en main.
Pour revenir un peu sur les risques, donc tu as cité trois risques, et justement la stratégie de cash flow positif maximise un petit peu ces risques. Quand on va sur des petites agglomérations, forcément plus de risques de vacances locatives, plus de risques d'impayés, tous ces éléments-là, comment vous faites pour mitiger ces risques et cash flow positif? C'est quoi votre stratégie?
Ouais. Alors c'est intéressant, c'est vrai que c'est moi, et d'ailleurs j'avais le même a priori avant de commencer à investir. Il se trouve que mes premiers investissements, je les fais plutôt sur des gros immeubles, dans des grandes villes, etc. Et petit à petit, petite personne, je me suis mis à aller dans les villages, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais pas moins de tension locative. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on oublie, c'est en fait la tension locative, c'est le rapport de l'offre et de la demande. Et en fait, on peut être sur un marché où il y a finalement peu de demandes, parce qu'on est dans un village et qu'il n'y a qu'une ou deux personnes qui vont chercher un logement tous les mois, et pour lequel en face, il n'y a aucune offre. Donc moi, j'ai des exemples d'immeubles où je vais être quasiment le seul immeuble de la ville. Nous, on va vraiment regarder des données, par exemple, les durées moyennes des annonces de location sur les sites, par exemple, Sologer, Le Bon Coin, etc., pour se faire un avis le plus objectif possible de la réalité de la tension locative. Donc, j'ai envie de dire, oui, si on y va un peu au hasard, dans le premier village de France, on prend un gros risque. Lorsqu'on le fait avec des données, tout de suite, on peut mitiger ce risque. Donc nous, on va mitiger ces risques potentiels qu'effectivement tu as pu nommer, liés à la tension locative, le risque d'impayé. c'est un bon point. Effectivement, on peut avoir des risques d'impayés plus forts parfois dans certaines zones. Où on va par exemple utiliser la garantie visale, qui ouais. est très accessible aujourd'hui, des GLI, donc on a un certain nombre d'assurances. Et en fait, en pratique, on n'a pas un taux d'impayé beaucoup plus fort que ce qu'on pourrait faire, par exemple, en plein centre-ville de Paris. Mais ça demande effectivement à prendre les bons dispositifs et à faire attention à toutes les garanties des assurances auxquelles on peut souscrire.
Est-ce que tu connais des logiciels comme Livebox, ouais. Youno, qui aussi sont des logiciels un petit peu pour chercher des biens, qui donnent la rentabilité directement ouais. En quoi votre technologie ouais. se différencie ouais. de ces logiciels?
Alors c'est intéressant, il y a aussi Moteur Immo, il y a ouais. pas mal d'acteurs comme ça. Alors déjà, je trouve ça bien déjà qu'enfin, il y ait des solutions accessibles. Moi, quand j'ai commencé dans l'investissement locatif, le seul outil, c'était... Alors, ça s'appelle Auris, maintenant, ça s'appelait à l'époque Rendement Locatif. Mmh. Et il faisait ça, mais très mal, en fait, basé sur les mètres carrés. Il faisait des loyers au mètre carré, ce qui n'a aucun sens. Enfin, ça a du sens dans des grandes villes comme Paris ou Lyon, mais pas dans des petites villes de province. Donc, je trouve ça intéressant que ces solutions soient là. Moi, je trouve qu'elles sont toutes perfectibles. Mmh. En fait, elles ont ce défaut, je trouve... elles ont plein d'avantages, avant de parler des défauts. Je pense que c'est bien pour commencer et c'est des outils beaucoup plus puissants que d'aller simplement sur ce logis ou le bon coin. Ça, c'est clair et net. Maintenant, dans les hypothèses de rendement, les calculs, les simulations, c'est pas tout le temps très fiable, notamment l'estimation du rendement locatif. Donc, ça a ses défauts. Ça, effectivement, c'est sur la partie sourcing de biens. Ensuite, nous, on va utiliser d'autres données. On récupère, par exemple, toutes les annonces de location. On les revisite chaque jour. Et ça, je ne l'ai pas vu sur ces propositions-là. J'ai discuté récemment avec le fondateur de Livebox, d'ailleurs. J'ai eu la chance d'avoir une démo et je trouve que c'est hyper convaincant. Simplement, je trouve que ça manque d'insight, notamment sur la tension locative. Donc ça, c'est vraiment nous ce qu'on va apporter en plus en termes de données. C'est essentiel au vu des zones dans lesquelles on va essayer de se positionner.
C'est intéressant que vous utilisez beaucoup du coup cette métrique-là de la tension locative. Ouais. Est-ce que vous faites comme beaucoup, vous allez juste sur Lock Service et vous regardez la tension locative Lock Service, ou est-ce que vous voulez quelque chose de plus perfectionné?
Et je déteste Lock Service.
D'accord.
Alors pardon, le fondateur Lock Service. En fait, pourquoi j'aime pas? Parce que je ne sais pas comment c'est calculé derrière. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on récupère toutes les annonces de location, on les revisite chaque jour et on dit. Si je suis à Roubaix, par exemple, et que les T2, en moyenne à Roubaix, les annonces restent 12 jours en ligne et qu'à Montluçon, elles restent 40 jours, ça me dit quelque chose de très concret, de très mesurable, de très honnête sur la tension locative. On peut aller beaucoup plus loin. Là, j'ai pris la moyenne, on regarde des distributions, on regarde beaucoup de choses. Et ça, je trouve que c'est la meilleure métrique. Je ne sais pas d'ailleurs comment fonctionne Lock Service dans le détail. Simplement, c'est un indicateur, je crois, vert, orange, rouge. Voilà, c'est un peu. Et moi, je préfère avoir la donnée brute pour faire une analyse un peu plus approfondie.
Ok, ouais. Et j'ai même mieux servi par soi-même. Quoi.
Voilà.
C'est ça. Ok. Vous, donc, je pense qu'il y a plusieurs étapes pour quand vous sourcez les biens pour un client. Donc, vous utilisez l'algorithme. Ensuite, c'est quoi les critères qu'il y a dans cet algorithme pour sélectionner un bien? Et ensuite, quelle est ensuite la sélection que vous faites vous-même pour. Au final, présenter le bien à votre client?
Alors, il y a plusieurs indicateurs qu'on va utiliser. En fait, donc on a un scoring global, c'est une note de 0 à 100, et il est basé sur plusieurs indicateurs. Le premier, ça va être le rendement locatif. Pour nous, c'est le critère principal. Plus le rendement locatif est élevé, plus mon scoring va être élevé. La tension locative, on en parlait juste avant, on a des seuils. Grosso modo, on dit que si la tension locative est bien inférieure au délai de préavis, en fait, de départ du locataire, finalement, ça veut dire que la tension locative est élevée. On va utiliser les historiques de plus-value. Alors, en ce moment, on a volontairement réduit la pondération de ce critère, parce qu'on est dans un marché qui est en pleine évolution. Là, se baser sur les précédentes années, c'est très risqué, donc on a voulu un peu déprioriser ça. Et ensuite, on va essayer d'estimer le risque. Et ça, le risque, c'est une formule un peu complexe, mais ça dépend notamment du montant de travaux, du type de travaux. Voilà, donc on va essayer de pondérer tous ces critères. Ça donne un scoring qui n'est pas parfait en soi. Ça demande toujours à un analyste, à un consultant derrière, vraiment d'analyser un peu plus finement. Mais ça a permis de préfiltrer et de prioriser les opportunités les plus intéressantes.
La question que je me pose, que je m'étais aussi posée en regardant... Livebox, ou Livebox, je sais pas exactement comment ça se dit, mais c'était comment justement, vu que l'un des critères c'est le rendement, sauf que le rendement il est complètement lié au fait que tu fasses des travaux ou non, comment avec un algorithme et juste en scrapant des données, on peut estimer que il y a beaucoup de travaux à faire, donc le rendement est plus important?
C'est un très bon point, et je pense que c'est l'une des limites de ces logiciels, quelque part, c'est qu'en fait c'est quelque part juste du scrapping. Enfin, il y a un peu d'intelligence derrière, mais ça reste du scrapping. Nous, on a un département de chasse. Aujourd'hui, on a 5 personnes qui, à temps plein, en fait, appellent chaque produit, chaque annonce, etc. Enfin, celles qui ont le meilleur scoring et qui ensuite vont qualifier un peu plus finement. Par exemple, le montant des travaux, quel type de travaux, etc. Et ça va permettre d'affiner en fait ce scoring. Et c'est indispensable parce qu'effectivement, dans une annonce, on n'a pas tout le contenu. Quoi.
Ouais. Mmh. Justement, tu disais aussi que les travaux, c'était une source importante de risque. Mmh. Comment vous limitez ce sujet-là? Sachant que bon, il y a d'autres sociétés d'investissement clés en main qui vont internaliser la partie travaux. Vous travaillez avec des prestataires externes. Comment vous vous assurez que c'est des personnes de qualité? Vous investissez dans beaucoup d'endroits aussi. Ouais. Comment vous faites?
C'est l'un des sujets les plus complexes. Très franchement, depuis qu'on existe, on a changé plusieurs fois de partenaires travaux. Ça a été beaucoup de travail. Aujourd'hui, on a un réseau de partenaires qui est assez riche en France. Alors, il y a des zones dans lesquelles on va être moins fort que d'autres. On est assez transparent avec nos clients là-dessus. Par exemple, en Bretagne, qui est une zone où historiquement, les rendements locatifs ne sont pas satisfaisants pour nous, on va être très peu présent. En revanche, dans le nord, dans l'est, voilà, c'est des zones où on est présent. Et donc, l'idée, c'est qu'on va avoir plusieurs partenaires, qu'on va même parfois mettre en concurrence, avoir plusieurs devis. Et surtout, c'est des partenaires avec qui on a déjà travaillé. On fait des contrats travaux. Donc, on essaye vraiment de verrouiller en fait, cet aspect-là. On fait aussi des visites de chantier, qu'on essaye de contrôler ça. Mais effectivement, les travaux, ça reste en termes de délai, en termes de montant, toujours la partie la plus complexe.
Comment est-ce que ton entreprise et est-ce que chez Cashflow Positif, vous intégrez des sujets de durabilité, par exemple sur les DPE, est-ce que vous faites quelque chose, est-ce que vous êtes spécialisé là-dedans?
Oui, alors spécialisé là-dedans, peut-être pas, mais simplement, oui, effectivement, enfin, aujourd'hui, on peut plus juste oublier cette problématique. Déjà parce que, à l'évidence, le dérèglement climatique nous a tous montré qu'il fallait agir. La deuxième raison, c'est que économiquement, la hausse des tarifs énergétiques, que ce soit, on l'a vu cette année avec le gaz, l'électricité, il y a un vrai enjeu économique à prendre en compte cette problématique. Et enfin, il y a un aspect réglementaire, bien sûr, loi climat résilience, qui est sans cesse un petit peu reportée, mais quand même, c'est en train d'arriver. Et donc, nous, on fait systématiquement ce qu'on appelle des DPE projetés. En fait, l'idée, c'est de dire, je suis un diagnostiqueur et je vais dire, pour être en DPE D, en général, c'est ce que cherche à faire la plupart des gens aujourd'hui, pour du coup se couvrir au moins jusqu'à 2034, il faut faire tel type de travaux, etc. Et ça, c'est un document qui est opposable juridiquement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites ces travaux et que vous n'avez pas la lettre voulue, vous pouvez vous retourner contre l'assurance du diagnostiqueur. Donc ça, c'est quand même assez fort. On va le faire systématiquement, au moins en D, puisqu'aujourd'hui, c'est l'exigence gouvernementale. Ouais.
Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ça, est-ce que c'était client? Est-ce qu'il y a une demande par rapport à ça de plus en plus? Est-ce que tu le ressens ça dans tes échanges?
C'est une énorme. En fait, je pense que c'est un sujet d'actualité, donc on peut pas l'ignorer. Ils ont cette peur, mais en même temps, je pense que beaucoup d'entre eux ont compris qu'il y avait une opportunité. Donc les passoires thermiques, nous c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on a pu mesurer, c'est qu'il y a vraiment un écart en fait de prix assez considérable lorsqu'on va être en F ou en G, et le montant des travaux n'est pas aussi conséquent souvent, et donc il y a souvent de bonnes affaires, il y a aussi de très mauvaises affaires, attention. mais voilà, je veux dire, en tout cas ça vaut le coup de regarder.
Okay. Et pour toi, est-ce que les diagnostiqueurs ils sont fiables ou...
Ouais, alors je vais pas critiquer le diagnostiqueur en soi. Je pense que c'est le process. Enfin, c'est compliqué déjà. Enfin, je veux dire, un exemple pour mesurer la qualité de l'isolation, parfois il faudrait casser le mur pour aller voir ce qu'il y a derrière. En pratique, c'est pas toujours possible, donc on est obligé de faire des hypothèses. Donc la méthode en fait est pas très fiable. Alors les revues sans cesse, je crois que tous les 3 mois ou 6 mois, on revoit les formules. Et c'est bien, c'est mieux, c'est de mieux en mieux. Mais ce qui est frappant, nous on a le cas plusieurs fois, on fait les DPE. On fait le DPE 3 fois sur le même logement sans aucun travaux, on a 3 lettres différentes. Donc effectivement, il y a un problème quelque part, ça c'est sûr.
Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant de se dire que l'enjeu est vraiment important et qu'au final, ça reste une méthodologie qui a été faite un peu rapidement pour essayer de répondre à un problème, mais qui n'est clairement pas parfaite.
Et qui est effectivement très faillible, beaucoup de failles. Ouais.
Maintenant, on va passer à une autre étape de l'interview. Ça va être, donc nous, chez ImmoCompar, on fait des analyses de sociétés d'investissement clés en main qu'on va ensuite classer en fonction d'une grille de notation. Et donc, c'est la partie où normalement, on t'aurait laissé répondre à des commentaires négatifs, mais vous n'en avez pas.
Donc, pas encore, ça va arriver un jour.
Donc nous, on a quand même quelques petites réserves. Forcément, sur nos analyses, à chaque fois qu'on en fait, on a toujours des points pour nous qui pourraient être améliorés. Là, en l'occurrence, c'est plus tourner une question. C'est pour toi le fait que, vu que vous scrapez la data sur les sites d'annonces, du coup, vous n'avez pas de bien off-market, donc potentiellement aller chercher des petites pépites. Est-ce que vous n'avez pas ce défaut par rapport aux autres qui vont, eux, peut-être aller ponctionner des biens en aval sur ces sites d'annonces-là?
Oui, c'est un bon point. Et je pense qu'on communique mal là-dessus parce qu'on propose du off-market.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'on ne le met pas en avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est notre vision des choses. C'est un argument très marketing finalement. Pour nous, l'idée, c'est que le bien vienne du off-market, qu'il vienne du marché, peu importe. En fait, ce qui compte, ça va être le rendement final, le produit final, et pas tellement d'où il vient. Donc on en fait, mais c'est vrai qu'historiquement, on n'a pas des produits bien meilleurs off-market. Donc c'est pour ça qu'on communique un peu moins là-dessus.
Dans quel cas, du coup, vous proposez du off-market à vos
En fait, nous, ce qu'il y a, c'est qu'on va avoir un pool d'opportunités. Et ce pool d'opportunités, il va y avoir un split en fait, entre des opportunités off-market et des opportunités qui ne sont pas off-market. Pour vous donner un ordre de grandeur, par exemple, sur si je prends 10 opportunités au hasard, il y en aura peut-être une ou deux qui viennent du off-market. Mais on ne va pas prioriser vis-à-vis de nos clients celles qui sont off-market plutôt que celles qui ne sont pas off-market. On va juste proposer ce qui est le plus intéressant, le plus rentable pour notre client. L'off-market, ça a surtout un avantage pour l'intermédiaire, sauf pour nous, parce que ça permet de bloquer les biens plus longtemps, ça permet de ne pas être en concurrence avec d'autres chasseurs, etc. Mais pour le client final, je ne suis pas sûr que c'est un réel intérêt supplémentaire. En fait, si le vendeur a un bon produit, il a plutôt intérêt à le mettre sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu sceptique là-dessus, même si on en fait aussi à la marge, un peu comme tout le monde. Ouais.
Ok, d'accord. On a aussi eu la chance d'accéder donc à Cash Flow Positif et au site dont les clients ont aussi accès. On a pu voir la modélisation financière et d'ailleurs, elle est très complète. C'est un des points positifs donc, qu'on a mis en avant sur le site. C'est une des modélisations financières qui est la plus complète pour les clients. Par contre, il n'y a pas de vacances locatives. Donc, ce qui peut nous paraître étonnant au vu des localisations dans lesquelles vous êtes, comment t'expliques ça ?
Alors, il y a deux raisons. Alors déjà, c'est vrai que par défaut, l'hypothèse par défaut de vacances locatives, c'est le consultant qui va la fixer. Et c'est vrai que dans certains cas, lorsque par exemple, il va faire le choix, parce qu'il a eu des discussions avec le client par exemple de mettre une assurance vacances locatives, il sait que la vacance locative sera à zéro. En revanche, ça va baisser un petit peu son cash flow, puis il devra payer cette assurance en contrepartie. Donc, c'est parfois le choix qu'on fait. Sinon, on laisse la possibilité en fait au client à directement modifier le revenu et donc d'inclure une hypothèse de vacances locatives. Certains le font, certains ne le font pas. Voilà. Après, c'est vraiment une question d'arbitrage entre ce que je prends cette assurance, est-ce que je la prends pas, est-ce que je veux prendre cette hypothèse. Et c'est vrai que nous, dans Simulateur, on a vraiment voulu laisser la main en fait à nos clients sur tous les paramètres. Vous pouvez vraiment changer toutes les hypothèses pour vraiment avoir la simulation qui vous paraît la plus réaliste. D'accord.
Du coup, là, on va passer sur une autre partie encore de l'interview. Donc toi, t'as monté ta boîte pendant le Covid, ce qui était assez compliqué. Ouais. Là, on arrive maintenant sur un secteur de l'immobilier qui est aussi dans une situation un peu difficile, entre guillemets. Selon toi, les défis actuels que le marché immobilier a en ce moment ?
Il y a plusieurs challenges. Alors, un challenge plus long terme, ça fait déjà plusieurs années, c'est tout ce qui concerne l'impact environnemental. Donc là, les DPE, c'est l'un des sujets, mais même sur la rénovation des bâtiments, les matériaux, etc., la hausse des matériaux, enfin tout ça, il y a eu énormément de contraintes en fait, économiques qui ont été imposées en fait, aux bailleurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez complexe et je pense qu'on... c'est pas encore un sujet très maîtrisé par la plupart des acteurs du marché. Donc je pense qu'il y a une montée en compétences qui est nécessaire sur tous ces sujets. Il y a un challenge en ce moment lié à la hausse des taux d'intérêt. Évidemment, on a tous eu peur, je pense. Enfin, en tout cas, tous ceux que je connais parmi nos concurrents, de cette hausse des taux d'intérêt. On a certains acteurs d'ailleurs qui sont en difficulté à cause de ça. Et c'est vrai que ça demande à repenser les estimations de prix, comment est-ce qu'on modélise bien sûr les investissements. C'est pas moins intéressant qu'avant, simplement ça va être différent. Il va falloir prendre des hypothèses différentes, notamment je pense au marché locatif qui est lui en pleine explosion. On a de moins en moins de produits, une tension locative qui explose dans toute la France, des prix moyens qui augmentent. Donc voilà, l'idée c'est de réussir à trouver finalement ce qui marche dans ce contexte-là. Et nous, voilà, on a une recette en ce moment qui fonctionne plutôt bien en estimant et en faisant les bonnes hypothèses conservatrices, mais réalistes aussi.
D'accord. Est-ce que tu penses que vous avez peut-être moins subi l'impact de l'augmentation des taux d'intérêt dans le sens où il y a pas mal de vos concurrents qui vont proposer des biens locatifs à 4, 5, 6% de rentabilité et donc forcément le calcul il est vite fait quand on est quasiment à 5% de taux d'intérêt et qu'on se dit un bien à 5% ça va pas trop m'intéresser. Est-ce que vous du coup qui proposez des 11, 12, 13% vous avez pas vu potentiellement des personnes venir vers vous pour ça ?
C'est possible, c'est toujours difficile à estimer et c'est vrai que nous depuis la hausse des taux d'intérêt on a jamais eu autant de prospects, de clients, de personnes qui viennent nous voir. Donc, est-ce que c'est lié à ça ? Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'on communique ? Le bouche à oreille, c'est toujours difficile à dire. Mais c'est vrai que autant certains concurrents pouvaient prétendre faire de l'autofinancé il y a quelques années, et je pense que certains d'entre eux étaient capables de le faire, autant aujourd'hui, je pense qu'on est peut-être l'un des seuls acteurs. Et c'est vrai que ça nous met effectivement un peu en avant. Et même en dehors de faire de l'autofinancé, c'est même juste de faire des projets rentables. C'est ça aussi. C'est vrai que nous, on parle beaucoup d'autofinancé, c'est notre stratégie d'investissement, mais ce qui est important, c'est d'abord de faire un projet rentable. Et comme tu disais, quand tu as un taux d'intérêt à 5% et que tu vas faire 4% de rendement et qu'il n'y a pas de plus-value, ça va être difficile d'équilibrer le projet.
Ah, ouais. Mais sûr que vous y a un vrai enjeu sur le. Enfin, votre nom, c'est quand même cash flow positif. Oui. Donc, si c'est plus possible, c'est embêtant. Ouais.
Il y a une promesse commerciale à tenir.
Oui,
c'est pas toujours évident. Hein. C'est vrai qu'on s'est fait cette réflexion. Hein. Quand on a vu la hausse des taux, on s'est dit mince, si les rendements ne bougent pas et qu'on a des taux d'intérêt à 6%, ça va être difficile, même pour nous. Quoi. Donc, on a eu cette crainte. Mais il se trouve que les rendements augmentant, en fait, dans le même moment, on réussit à s'en sortir. Mais c'est vrai que. On surveille ça de près. Je pense qu'il n'y a pas un seul acteur du marché qui tous les matins regarde pas, voilà, BCE, tout ça, les taux d'intérêt.
Mais c'est intéressant sur les rendements, tu dis qu'ils augmentent. Pourtant, on peut voir des prix de l'immobilier qui sont plutôt stables dans leur globalité. Pourquoi les rendements augmentent? Est-ce que vous arrivez à mieux négocier du coup? Vous avez un pouvoir de négociation?
C'est ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Souvent, parce que les prix affichés sur les vitrines n'ont pas vraiment baissé, très peu. On constate 4-5%, je crois qu'il y avait un baromètre là de Sologer récemment là-dessus. Bon, rien de... Sauf que dans la pratique, en fait, on réussit à négocier beaucoup plus. Un exemple très concret, hein, c'est l'année dernière, enfin il y a 2 ans, notre négociation moyenne, elle était entre 5 et 10%. Aujourd'hui, on est à plutôt 15, 20, 25%. Donc on négocie beaucoup plus. Donc en fait, là, on va récupérer un point de rendement de plus qu'avant déjà. Et ensuite, côté locatif, les loyers augmentant énormément en ce moment. Nous, sur notre parc locatif, alors comme vous le savez, l'IRL bloque les loyers à 3,5% par an. Mais ça, c'est pour les locataires déjà en place. Mais dès que vous faites, hein, vous avez un nouveau locataire et que vous n'êtes pas sur un marché réglementé, ce qui est notre cas, on n'a quasiment aucun lot dans des marchés réglementés par le plafonnement de la hausse des loyers, eh bien, on loue beaucoup plus. En pratique, nous, sur notre parc locatif, on a fait 10% d'augmentation de loyer sur un an.
D'accord.
Ce qui est énorme. Je pense que ça n'est jamais arrivé depuis très longtemps. Et c'est lié... fatalement, hein, la hausse des taux, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui sont forcés d'être locataires. Donc voilà, donc l'un dans l'autre, on arrive en fait à effacer cette hausse de taux d'intérêt. Maintenant, si demain les taux d'intérêt passent à 8%, je ne sais pas si on pourra suivre. Aujourd'hui, en tout cas, avec les taux actuels, entre 4 et 5%, on arrive à s'en sortir encore.
Okay. Moi, j'ai une autre question sur l'investissement clé en main dans sa globalité. Parce que comme tu l'avais dit au début, c'est un concept qui est en soi assez nouveau, entre guillemets. Toi, en tant que fondateur de Cash Flow Positif, c'est quoi un peu ta vision du futur du secteur de l'investissement immobilier clé en main? Comment tu peux l'imaginer, même si c'est assez compliqué à la
question. Ouais, c'est très difficile.
Quelle vision t'as, toi?
C'est très difficile parce que là, on est vraiment dans une période où tout est en train de se faire. Là, parce que ceux qui étaient trop faibles, instables, qui ont peut-être fait des très grosses levées de fonds et qui ne sont pas forcément rentables, sont en train de vivre une période difficile. Et donc là, je pense que le paysage va se dessiner là, dans les prochains mois, peut-être années. Donc on y verra plus clair. Moi, ma vision à long terme, c'est en tout cas les acteurs qui vont sortir du lot, c'est ceux qui seront capables de mieux se différencier. Moi, parfois, je déplore que certains de nos concurrents sont assez peu différenciés. Et je pense qu'il faut avoir un peu plus d'opinion. En tout cas, nous, c'est notre position. Hein. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Je pense que la technologie, on le voit avec l'intelligence artificielle qui est de plus en plus populaire et accessible. On le voit avec ChatGPT, par exemple. Voilà, on est en train de prendre conscience de ça. C'est un axe de diversification. Et je pense qu'il y en a un autre aussi, c'est l'expertise. Ce que j'attendrais en tant que client d'une société d'investissement clé en main, c'est vraiment de l'expertise, du conseil, et pas avoir des vendeurs, pour pas dire voilà, des agents immobiliers qui vont vouloir me vendre des produits, mais plutôt vraiment un conseil honnête et côté acheteur. Donc c'est aussi pour ça que tout à l'heure on parlait des biens off-market, ça crée parfois le biais de vouloir vendre ses produits, de vouloir vendre à tout prix ses produits. Nous, on va plutôt avoir une approche côté client de se dire je veux trouver le meilleur produit pour mon client, peu importe le bien. Donc voilà, moi je pense que c'est un peu les deux axes qui vont permettre aux acteurs de se différencier. Et après, est-ce qu'il y aura plus ou moins d'acteurs? Bon, je fais le pari qu'il y en aura moins et qu'il y aura des regroupements, mais on verra.
C'est une bonne transition pour la question d'après. Est-ce que tu penses qu'il y a eu des dérives sur le marché, notamment avec beaucoup de levées de fonds? Forcément, les levées de fonds, ça pousse à faire du chiffre d'affaires plus que de la rentabilité. Est-ce qu'il y a eu des dérives? Est-ce que tu as vu des concurrents faire des choses qui n'étaient pas forcément top et qui ont peut-être pénalisé le secteur?
C'est une bonne question. Disons que moi je suis plutôt content en fait qu'il y ait des acteurs qui fassent des levées de fonds, qui montrent qu'on a un secteur dynamique et dans lequel il y a des choses à faire. Après, je pense qu'on connaît leurs défauts aussi. Effectivement, quand on fait des grosses levées de fonds, on va parfois trop vite. On a aussi des comptes à rendre à des fonds d'investissement, etc., des investisseurs. Donc, ça crée parfois un conflit d'intérêts entre la vision long terme de l'entreprise et le court terme, l'attente des investisseurs. Donc, il peut y avoir peut-être des dérives liées à ça. Je n'ai pas d'exemple très précis. Et puis nous, c'est vrai qu'on regarde les concurrents, mais un peu de loin, on ne va pas non plus voilà, regarder chaque avis négatif de nos concurrents. Mais on peut le voir, bien sûr, assez facilement. Donc oui, chez les concurrents, je pense qu'il y a des dérives. Et globalement, ce que je reproche, ce que je disais tout à l'heure, c'est le manque d'expertise parfois. Mmh. Moi, j'ai l'impression que quand j'entends certains de clients qui viennent nous voir, qui sont allés voir d'autres acteurs auparavant, je pense qu'il y a vraiment presque du défaut de conseil parfois. Et ça, c'est assez dommage parce que ça nous dessert. Pour le coup, en fait, c'est notre valeur ajoutée. Je veux dire, si c'est pour juste acheter un produit immobilier, il y a des agences immobilières qui font très bien ça. Donc, nous, on a ce devoir de bien conseiller nos clients. Les dérives, pas forcément sur les acteurs, mais sur le marché locatif, il y en a beaucoup. Je ne vais pas toutes les citer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui est très subventionné par l'État. On parlait de la garantie visale tout à l'heure, des APL, etc. Et c'est vrai que quelque part, il y a un vrai. Comment dire? Il peut y avoir des abus, en tout cas, par rapport à ça. Et donc, je pense qu'il y aura un besoin, peut-être, de légiférer, en tout cas, sur ces sujets.
Justement, tu parlais d'agent immobilier. Vous touchez du coup une commission quand vous vendez un bien. Ce qui fait que potentiellement, il y a un peu un désalignement des intérêts entre le client qui, lui, va chercher à acheter un bien rentable et vous avez l'intérêt de lui vendre un bien. Est-ce que tu aurais des idées peut-être pour mieux aligner les intérêts avec le client?
Ouais, alors c'est un bon point. Quand on a voulu lancer Cashflow Positif, on s'était dit, en fait, nous, on va proposer des biens autofinancés et on va se rémunérer qu'avec l'excédent de Cashflow Positif.
Okay.
On voulait faire ça. Donc, purement au pur résultat. Et en fait, on a commencé à discuter avec des avocats, avec des juristes, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en pratique, c'était extrêmement complexe. Parce que si vous créez une SCI et que vous mettez des dépenses dans votre SCI, par exemple, c'est très difficile à contrôler. Il faut des commissaires aux comptes. Enfin bref, c'était un enfer. Donc, on n'a pas réussi à le faire. Mais un jour, peut-être qu'on pourra faire quelque chose d'un peu similaire. Là où nous, on va aligner les intérêts, ça va être sur la gestion locative. En fait, typiquement, si le bien ne se loue pas, nous, on est rémunéré qu'en pourcentage des loyers perçus. Donc, en fait, on a intérêt à la fois à vendre un bien qui va générer des revenus et qu'on est capable de gérer après et où il n'y a pas trop de problèmes. Parce qu'en fait, la gestion locative, c'est surtout gérer des problèmes et ça nous coûte beaucoup de temps. Donc, c'est là où on aligne un petit peu les intérêts. Après, c'est vrai que moi, je suis très ouvert à des propositions pour aligner les intérêts avec nos clients. Il y a par exemple quelque chose qu'on va lancer prochainement, des club deals. En fait, l'idée, c'est on va avoir plusieurs investisseurs qui se regroupent sur un projet. Et pour montrer en fait qu'on se mouille aussi, on va nous aussi directement prendre une participation dans chaque club deal. Donc pour montrer qu'on y croit. Et ça, je pense que c'est l'une des façons qui pourrait permettre d'aligner un peu les intérêts.
Est-ce que pour toi, il y a des secteurs qui sont particulièrement intéressants en ce moment, sur lesquels se positionner? C'est peut-être
secteur géographique.
Secteur géographique, ouais. C'est peut-être intéressant, c'est certain.
C'est un bon point. Alors, c'est vrai que nous, on ne raisonne pas vraiment exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire, il y a une ville, il faut absolument y aller. Parce qu'une fois qu'on dit ça, tout le monde y va, puis deux jours après, du coup, c'est plus intéressant. Ça a été le cas avec Angers, avec Nantes, enfin, c'est des villes qui étaient très populaires. Et bon, Rouen, voilà, on en a beaucoup parlé. En fait, tous les ans, quand il y a le top 10 du Figaro, des villes à investir, moi, je dis toujours, non, c'est top 10, du coup, il ne faut plus aller, c'est déjà trop tard. du coup, je ne saurais pas donner des villes précises. Par contre, je peux donner un peu, c'est vrai, enfin, globalement, bon, le critère, ça va être le prix au mètre carré. Il faut aller dans des zones dans lesquelles le prix au mètre carré est plus faible. Parce que, en fait, si vous voulez, la décote de loyer va pas être aussi importante en fait. Enfin, linéairement, on va avoir des rendements plus élevés là où les prix au mètre carré sont plus faibles. Donc les zones où les prix au mètre carré sont plus faibles, ça va être dans le nord de la France, ça va être dans l'Est. Et c'est pas forcément toujours des zones dans lesquelles nous-mêmes on se projetterait, on pourrait habiter même parfois, mais ça va être des endroits dans lesquels on va avoir une bonne tension locative, une proportion de locataires assez importante et des rendements qui sont au rendez-vous.
Ok. Est-ce que vous faites quand même des analyses sur l'avenir du secteur et de l'endroit où vous investissez plutôt long terme, à 5, 10, 15 ans, et essayer de se projeter, même si c'est très compliqué.
C'est très difficile. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les données de l'INSEE, notamment.
D'accord.
En fait, on a intégré pas mal de bases de données externes. Je pense l'INSEE, je pense à Etalab, donc CDVF. C'est ce qu'utilisent Meilleurs Agents, par exemple. Et pour voilà, on a d'ailleurs tout un travail de recherche en ce moment. On a deux data scientists qui travaillent là-dessus, d'essayer de faire des prédictions du marché, etc. C'est très compliqué, sincèrement. Donc nous, on l'utilise, on le présente à nos clients. D'ailleurs, nos clients ont libre accès en fait à ces données statistiques. Mais aujourd'hui, c'est pas un point de décision fondamental parce que ça reste un peu la boule de cristal.
Est-ce que pour toi, la technologie a transformé le marché ou va le transformer potentiellement?
Complètement. En fait, je pense. Enfin, nous, c'est dans notre ADN depuis le début, et c'est une conviction profonde qu'on a. C'est que c'est aujourd'hui les outils d'aide à la prise de décision vont être de plus en plus présents. L'intelligence artificielle, bien sûr, il y a des outils très accessibles comme ChatGPT. Il y en a d'autres plus complexes, mais bref, je pense que ça va effectivement permettre aux acteurs de se différencier sur ce marché et d'aller apporter encore plus de valeur ajoutée, encore plus d'expertise et légitimer en fait leur place sur ce marché.
Ok. Et vous, par exemple, l'IA, c'est quelque chose que vous regardez de près ou que vous commencez déjà à intégrer?
Alors nous, on utilise l'IA depuis le premier
D'accord,
jour.
ouais.
En fait, tous les deux fondateurs, on vient chez Palantir, donc une grosse entreprise d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est au cœur de ce qu'on fait. On l'utilise pour plein de choses. Bah, alors, on parlait tout à l'heure de la détection d'opportunités. Donc, on fait ce qu'on appelle du NLP, Natural Language Processing. Donc, c'est de découvrir des informations structurées dans du texte. On va l'utiliser pour faire des projections, pour faire des modélisations, etc. Donc, c'est du work in progress. Ça fait plus de 3 ans qu'on fait ça, mais tous les jours, on va de plus en plus loin. Et puis, on a un data asset qui est surtout de plus en plus gros et qui donne des insights de plus en plus intéressants. Donc, ça, c'est indispensable. Mais pour donner une idée, nous, aujourd'hui, on a une soixantaine de collaborateurs chez Cachot Positif. On a 15 collaborateurs dans la tech. Donc,
D'accord.
c'est pour dire, c'est un investissement très fort. C'est 25% des effectifs. Je ne crois pas qu'on ait beaucoup de concurrents qui soient dans cette
Ouais.
proportion-là. Ouais.
Ok.
Toi, en fait, c'est quoi la meilleure affaire que tu aies fait, soit pour toi, ou soit même pour tes clients avec Cash Flow Positif?
Ouais. Je vais en donner deux du coup.
Ok.
La meilleure pour moi et la meilleure pour l'un de mes clients. La meilleure opportunité que j'ai faite, c'est à Baccarat. C'est un village. Alors c'est connu pour la cristallerie.
D'accord.
Voilà. Mais c'est un petit village de 4000 habitants. La ville la plus proche doit être Nancy à 5, au moins 50 minutes. Donc c'est un peu au milieu de nulle part, faut pas se mentir. Et c'est un projet sur lequel j'ai fait un très gros rendement, un peu plus de 15% de rendement
Okay.
à l'achat. Et après travaux, maintenant on est à près de 20% de rendement. C'est une acquisition que j'ai fait il y a 4 ans de ça. Il faut oser aller dans ces types de villes. Et il faut bien mesurer aussi ce qu'on disait tout à l'heure, tension locative, etc. Mais ça, c'est un projet qui est très rentable. Et je vais prendre un autre exemple, l'un des tout premiers projets qu'on a réalisé chez Cachot Positif à Roubaix. C'était un immeuble qui présentait presque 16% de rendement locatif, qui a connu des problèmes avec des impayés et tout ça. Pour transparent, ça peut arriver parfois. À l'époque, on n'avait pas encore la GLI, toutes ces garanties. Mais même avec des impayés, même avec quelques difficultés, on est arrivé à un rendement réel de l'ordre de 12-13%. C'était quand même très satisfaisant. Donc, c'est des beaux projets qu'on arrive à faire de temps en temps.
Et du coup, cet investissement personnel que tu avais fait, est-ce que donc c'était avant ta création de Cash Positif, est-ce que ça t'a confirmé ton envie d'absolument créer une boîte du coup
Ouais,
dans ce secteur?
complètement, complètement. En fait, c'est d'abord mes projets perso qui m'ont convaincu déjà de cette stratégie-là. Effectivement, et même pour dire l'algorithme qu'on utilise aujourd'hui, enfin les algorithmes, la technologie, je l'avais développé pour moi-même à l'origine. Donc en fait, c'est
D'accord,
pas sorti de nulle part, hein. C'était de se dire maintenant on va en mettre profit, on va le mettre à profit de nos clients.
comment tu t'es lancé dans ce type d'investissement? C'est que ça peut faire assez peur pour des primo-accédants ou des primo-investisseurs de se lancer là-dedans dans des endroits peut-être loin de chez soi, dans des petites agglomérations. Comment toi t'es arrivé à ça? Est-ce que t'as commencé par quelque chose de plus classique ou pas?
Oui et non. Plus classique. En fait, mon premier investissement, c'est un lot d'immeubles à Marseille.
D'accord.
En fait, je voulais acheter un immeuble, mais il se trouve que le vendeur m'a fait un prix en achetant trois immeubles. Des petits
Ok.
immeubles, hein, c'est pas forcément des montants très élevés, mais c'était une très belle opération. Alors, c'est pas le plus gros rendement que j'ai pu faire, mais à l'époque, ça me rassurait. J'étais dans une grande
D'accord.
ville, je savais que j'arriverais à louer. Voilà, avec le recul, j'aurais pu faire mieux, mais en tout cas, voilà. C'est un projet très rentable. Donc, je pense qu'il faut aussi être à l'aise. En fait, c'est ce que je dis aussi parfois à nos clients, c'est si vous m'écoutez, aller dans un village de 1000 habitants, c'est mieux, c'est super. Mais après, il faut aussi être à l'aise avec son investissement. Il faut pouvoir dormir la nuit et pas se dire, mince, je vais jamais pouvoir le louer. Donc, il y a ce compromis aussi à trouver, surtout sur un premier investissement. Il faut aller aussi trouver le bon compromis. Voilà. Après, il y a la distance, fatalement, quand on vit à Paris ou en Île-de-France. On n'a malheureusement pas accès en proximité à des opportunités avec des très très bons rendements. Donc fatalement, il faut aller un peu plus loin. Donc il faut souvent sous-traiter la gestion locative. Voilà. Donc il faut se poser ces questions-là. Moi, je pense que c'est mieux d'aller faire un investissement à l'autre bout de la France géré par une agence, quitte à perdre un tout petit peu de rendement, plutôt que de le faire soi-même à Paris. Mais après, voilà, chacun a
D'accord.
sa stratégie.
Donc tu disais que tu avais réalisé plus de 100
Ouais.
investissements à titre personnel. Est-ce que tu as encore tous ces biens ou tu as quand même fait de la... Tu as encore 100...
J'ai rien vendu.
Ok.
En fait, moi, c'est vrai que je fais que du locatif. Je ne fais pas d'opération de marchand de
Ok.
biens, d'achat-revente. Alors, c'est 100 appartements, mais c'est regroupé en immeubles. Hein. Donc, c'est gros, globalement, j'ai dû faire une vingtaine de transactions. Hein. Et sur une période de grosso modo de 4-5 ans, quoi.
Comment tu arrives à gérer à la fois une entreprise et à la fois, enfin presque deux entreprises finalement, parce que clairement, sans bien, 20 transactions, sans locataire, comment tu fais pour gérer tout ça? Sachant qu'il y en a qui, avec un bien, s'en sortent pas.
Ouais, complètement.
Comment tu fais?
En fait, il faut déléguer, il faut accepter ça. Il faut accepter que ce sera toujours moins bien que quand on le fait soi-même. Et en fait, c'est pour ça que qu'on a décidé de créer cette agence de gestion locative chez Cashflow Positif, qui s'appelle maintenant Ubiril. D'abord, c'était pour gérer nos biens à nous. Et donc, ce que je dis parfois même à nos clients, quand ils ne savent pas encore s'ils vont prendre la gestion locative chez nous ou s'ils vont faire eux-mêmes, je dis, mais moi, tous mes biens perso sont gérés par Ubiril, par mon agence, et j'ai pas, même pas de traitement de faveur. Hein. Ils gèrent mes biens comme les biens de n'importe quel autre client. Et ça me permet moi aussi de me rendre compte les choses qui marchent bien, les choses qui marchent pas, et de s'améliorer. Donc je pense qu'on ne peut pas arriver à une échelle, même deux immeubles, dès qu'on arrive à 5, 6, 10 lots et qu'on a une vie, je veux dire, un travail à côté. Je pense pas que ce soit faisable. Parce qu'avoir des locataires qui appellent à 15h en pleine réunion, mon chauffe-eau il est cassé, je pense que personne n'a envie de gérer ça. Donc il y a des professionnels qui font ça, ça coûte pas si cher que ça. Moi j'invite vraiment à déléguer cette partie-là. Ouais.
Ok. Donc du coup, tu as dit que tu avais fait 20 transactions en combien de temps?
À peu près 5 ans, entre 2018 et 2023.
Ok. Ouais. Comment tu as géré ton taux d'endettement?
Ouais, alors ça. Il y a plein d'astuces.
Okay.
Honnêtement, il y a plein d'astuces. Alors, la première, c'est que moi, j'ai fait que des projets en SCI à l'IS.
D'accord.
Et il se trouve qu'il y a certaines banques qui ne considèrent pas le taux d'endettement en fonction des projets qui sont dans des SCI à l'IS. Donc, chaque banque a un peu sa politique. Donc, j'ai pu travailler surtout avec ces banques-là. La vraie problématique, c'est, ça n'a pas été vraiment le taux d'endettement pour moi, ça a plus été l'apport. Parce qu'en fait, c'est relativement conséquent. Alors, là aussi, il y a des astuces. Faire des différés, en fait, un an, deux ans, ce qui permet de récupérer de l'apport pour investir. Ça, c'est des techniques qui sont quand même assez utiles. Mais ouais, le taux d'endettement, la SCIS, c'est une façon de le contourner. Et également, n'oubliez pas que les banques ont le droit à un pourcentage d'exception, je crois que c'est 15% d'exception ou 20%, je ne sais plus, de projets sur lesquels elles ont le droit d'aller au-dessus des 35%. Donc, c'est possible, il faut convaincre sa banque. Et quand on a déjà fait des projets qui sont autofinancés, c'est beaucoup plus facile.
Là, on va faire appel à ton côté un peu commercial, mais là, on a eu plein d'éléments sur l'investissement clé en main, sur Cashflow Positif. Là, si tu devais dire à une personne qui est vraiment en pleine hésitation, en plus même avec les conditions du marché, qu'est-ce que tu lui dirais pour dire, OK, en fait, n'aie pas peur et investis avec le clé en main, en tout cas, peut-être ton premier investissement. Et les 4-5 éléments qui peuvent le rassurer.
Alors, parfois, c'est un peu provocateur, mais j'ai tendance à dire, en ce moment, c'est les soldes. Pourquoi? Franchement, les prix sont beaucoup plus bas que ce qu'ils étaient il y a un ou deux ans. Il y a ce débat de est-ce que toute la hausse d'intérêt était pricée dans le marché. Moi, je pense que oui. Enfin, oui, en tout cas, en grande partie. Le marché locatif a jamais été aussi prospère et en telle tension. Donc ça, c'est inévitable. Et ce que je dis souvent, c'est il vaut mieux acheter dans une période où on a des taux d'intérêt élevés et un prix bas, plutôt que l'inverse. Parce que si dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, les taux redescendent à nouveau, ce qui est possible, moi je fais le pari que ce sera le cas, parce qu'on a déjà des entreprises qui sont en difficulté, il y a peut-être un risque de récession économique et que la baisse des taux d'intérêt permettrait de compenser tout ça. Donc si c'est le cas, on peut faire la meilleure opération du siècle, on va acheter peu cher, et en plus on réemprunte, on fait racheter son prêt à un taux plus bas. Donc ça, c'est la meilleure période pour investir. Le seul inconvénient, c'est que ça demande peut-être aujourd'hui un tout petit peu plus d'apport qu'avant. Donc, il faut bien viser le budget de votre projet de façon cohérente par rapport à votre taux d'intérêt, enfin taux d'emprunt, pardon, et l'apport que vous pouvez apporter.
Super cool, super clair.
De bons conseils.
Là, on a un peu fait le tour du coup, de tout ce qui est sur l'investissement clé en main, sur l'immobilier, sur Cashflow Positif. Là, c'est plus une partie où on va en savoir un peu plus sur Erwan, l'entrepreneur. Quelle est la réussite dont tu es le plus fier depuis que tu as créé Cashflow Positif?
Je pense qu'il y a vraiment une dimension people, une dimension en fait collaborateur. Très franchement, je ne m'en rendais pas compte au début. Moi, je suis un ingénieur, hein, je n'avais pas la conscience de tout ça, la complexité de créer une entreprise, gérer des salariés, gérer des arrêts maladie, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est très difficile, mais c'est tellement gratifiant de voir des personnes progresser, de voir des personnes qui sont venues, qui sont arrivées chez nous, des personnes qui sont là depuis plus de 3 ans maintenant, et de les voir au niveau où elles sont aujourd'hui. Donc ça c'est tous les jours, je me félicite un peu de ça, mais c'est une réussite collective, mais je m'en félicite. Et en particulier, aujourd'hui, on a réussi à construire une équipe de management qui est assez solide et sur laquelle on peut compter. Il y a une confiance réciproque. Et c'est vrai que dans ce climat où parfois on peut voir un peu de défi entre les salariés, les employeurs, un peu nous, chez nous, je pense qu'on a réussi à créer une culture finalement un peu gagnante-gagnante et dans laquelle, voilà, en tout cas, je suis plutôt fier de ça. Voilà, ça doit être la plus grande réussite, je pense que ce serait celle-là.
Trop bien. Bah là, du coup, aussi plus après en termes aussi quand tu as créé Cashflow Positif, en plus, tu avais un nouveau modèle un peu qui se différenciait des autres acteurs. C'était quoi les plus gros obstacles que tu as eu? Est-ce que tu as eu des petits pics de quelques concurrents qui sont venus te voir et dire bon, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Est-ce que au contraire, ils ont dit trop bien, c'est trop cool, le gars veut changer un peu le
Ouais.
secteur? Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus?
C'est intéressant parce que alors sur les concurrents, alors non, j'ai pas reçu de pic de
Ok.
concurrents, sincèrement. Enfin pas direct, un peu indirect, mais rien de méchant. Et c'est intéressant parce que les deux plus gros acteurs, on a été quasiment dans les mêmes promos en fait. On se connaît
D'accord,
plus ou moins directement, mais on se parle. Enfin voilà. Après, on se parle pas forcément tous les jours, mais bon. Mais on se suit de loin. Voilà. Évidemment, on regarde tous un peu ce qu'on fait. Et comme je disais, moi, je trouve ça positif qu'on ait des acteurs visibles qui lèvent des fonds. En tout cas, moi, j'ai une approche plutôt bienveillante par rapport à ça. Et on n'a pas reçu de choses très malveillantes de leur part, donc je pense que c'est réciproque. Voilà. Après, donc ouais, les obstacles qu'on a pu rencontrer, je pense que le premier challenge, c'était l'autofinancement de Cashflow Positif. En fait, moi, j'avais cette idée de je veux pas en fait dépendre de fonds d'investissement. J'ai une vision, j'ai une stratégie qui est particulière et je veux pouvoir la défendre et je veux pouvoir garder mon indépendance, enfin, avec mon associé bien sûr, hein, Quentin de Chabrol, mais qu'on garde cette indépendance de réflexion. Et ça a été très difficile parce que on est dans un business dans lequel les cycles de vente sont très longs. Entre on voit un prospect et on va conclure une vente, il peut se passer 9 mois, 10 mois, ça peut être très long. Et donc il y a quand même un challenge en fait économique. Convaincre les premiers clients quand on n'a pas de track record, ça c'est très compliqué. Quand on a un site web et qu'on ne peut pas dire on a fait 200 projets, c'est vraiment difficile. Quand on n'a pas encore d'avis sur Google, sur les plateformes, etc. Donc les tout premiers clients, c'est extrêmement difficile. On a passé des week-ends, parfois des soirées entières, des vacances entières, essayer de convaincre un client avec un PowerPoint bricolé, voilà. Et enfin, dernier obstacle, c'était convaincre les premiers salariés. En fait, quand on lance un projet comme ça, je pense que tout le monde, un peu tous les entrepreneurs rencontrent ça. C'est comment expliquer que c'est la boîte de demain et que c'est pas juste une agence immobilière parmi d'autres, quoi. Ça, c'était aussi un sacré challenge.
Bah justement, comme tu parles de la boîte de demain, bon, qui sont assez aussi compliquées quand on a encore, bah, même si c'est une boîte maintenant qui devient de plus en plus mature, elle reste quand même 3 ans d'expérience. Comment tu vois, toi, Cashflow Positif dans 10 ans, notamment, bah, tu nous parlais de tout cet aspect tech, AI qui est super important. Est-ce que tu as déjà un peu une vision de Cashflow Positif dans 10 ans pour les personnes qui nous écoutent?
Alors 10 ans, c'est vraiment très très loin pour
Ouais.
moi. J'ai beaucoup de mal. Déjà, parfois, enfin, quand on a des discussions un peu avec des banques, mais à 3 ans, déjà faire un business pour 3 ans, j'ai beaucoup de mal. Mais quand j'essaye de faire cet exercice, globalement, ce qui est en train de se dessiner et ce vers quoi on essaye d'aller, c'est de développer des verticales. En fait, l'idée, c'est de dire, de créer un écosystème immobilier. Donc, pas seulement la transaction, pas seulement la gestion, mais c'est les travaux. À terme, peut-être internaliser cette partie-là. Il y a aussi une activité de gestion de patrimoine qu'on est en train de lancer, donc d'autres produits que de l'immobilier. Et en gardant toujours cet ADN, en fait, tech, pragmatique, un peu ingénieur, si je peux dire, vraiment, c'est un peu, voilà, ce qu'on essaye d'insuffler, mais dans l'ensemble des verticales du secteur. Donc, je pensais à la gestion de patrimoine, peut-être des activités de marchand de biens plus tard, etc. On est en train de développer notre propre logiciel de gestion locative aussi. Même collaborer avec des concurrents, des agences, etc. C'est des choses qu'on envisage à court, moyen terme déjà. Voilà.
Dernière question,
Ok.
c'est plus, est-ce que tu as un peu une expérience un peu insolite, parce que tu nous as dit que tu avais beaucoup de biens dans ton parc immobilier, ou même ne serait-ce qu'avec Cashflow Positif, parce que je pense qu'il y a une bonne ambiance, tu l'as dit, c'est une expérience humaine, donc les gens, ils ont dû avoir des choses un peu drôles à raconter. Est-ce que tu en as une qui te vient en tête, où tu te dis, c'était quand même assez fou cette histoire, quand j'y repense?
En fait, honnêtement, on en a tous les jours. En
Ah,
fait,
ok.
franchement, parfois je dis, mais si vous voulez, parfois quand des personnes rentrent dans la boîte, je dis, si vous voulez comprendre et comment ça se passe ici, venez une journée dans le bureau de la gestion locative et vous allez entendre des trucs de dingue. J'avais noté un peu deux, trois exemples. Par exemple, alors là, on a fait une visite récemment dans un immeuble, on a dû rentrer par la fenêtre de l'appartement parce que l'appartement était fermé. Le locataire sur place se plaignait que le voisin avait séquestré son chat. Donc, elle a porté plainte contre tout l'immeuble. La police est venue, enfin, pour un chat séquestré, enfin, n'importe quoi. On a eu des locataires qui faisait un barbecue sur le toit de l'immeuble, mais le toit sur les tuiles, quoi, de l'immeuble. Okay. Donc voilà. Et tous les jours, on a des histoires. Donc c'est assez drôle. Alors parfois un peu moins, parce que c'est une situation un peu complexe. Mais ouais, la gestion locative, c'est vraiment, enfin, l'immobilier général, mais la gestion locative, c'est vraiment plein
c'est
de
choses.
Ah ouais, plein d'expériences de ce type, ouais.
Ok. Bon, bah, top. Bah, en tout cas, pour passer par cash flow positif, potentiellement, bah, ça se passe directement sur le site pour prendre un rendez-vous. Possibilité aussi de passer par ImmoCompare, bien sûr,
Yes.
pour analyser différentes sociétés. Mais merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps.
Merci, merci à vous
C'était
deux.
super intéressant.
Cool. Merci à vous deux.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entière. Vous pouvez directement réserver un rendez-vous cash flow positif sur le site ImmoCompare, où vous allez aussi pouvoir bénéficier de 500 euros de réduction sur les honoraires de la société. Vous pouvez aussi aller regarder toutes nos autres interviews avec plein d'autres fondateurs, notamment le fondateur de Loki ou le fondateur de Louvinvest. On vous retrouve très bientôt avec de nouvelles interviews, avec de nouveaux fondateurs. Je vous dis à bientôt.